Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Italie sur un nuage fumigène, cornes de brume et klaxons ont retenti durant toute la nuit pour célébrer ce titre de champion d'Europe de football. La nationale est de retour après sa victoire contre l'Angleterre. Tout un symbole dans un des pays d'Europe qui a le plus souffert de la pandémie. De là à parler de renaissance, voire de rédemption, il n'y a qu'un pas. On retrouve à Rome Olivier Bonal.
C'est un parfum de renaissance qui flotte sur toute la péninsule italienne. Après l'absence de l'Italie au Mondial et la pandémie, c'est là que tout peut redémarrer, a commenté le quotidien La Repubblica. Car pour de nombreux Italiens, cet exploit sportif est allé bien au-delà d'une compétition, comme pour Giovanni, qui a célébré au Champagne une Italie qui renaît de ses cendres.
C'est une rédemption, la rédemption d'une nation, de tant de gens. Une nation qui a souffert. Combien de temps on est resté à la maison? Et là, on sort, on a mobilisé toutes nos énergies. On a un groupe vraiment uni qui rassemble tout le monde en Italie, ici, en ville, et on a réussi à gagner. Ça va bien au-delà du foot, tant de personnes ont souffert ici, ont perdu des proches, un travail, et là on se réjouit, ce sont des belles chances qui nous rassemblent de nouveau.
Comme un symbole de cette renaissance, une image a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, celle de cette rue de Bergame où l'an dernier les camions militaires emportaient les morts du Covid hors de la ville, est désormais pleine de supporters criant leur joie et agitant des drapeaux. Merci à chacun d'entre vous pour cette incroyable aventure, a tweeté le capitaine de l'équipe italienne, Giorgio Chiellini, résumant ce sentiment de beaucoup d'Italiens et mêlant pandémie et exploits sportifs. Merci aux hommes et femmes qui nous ont sauvé la vie, les médecins. Vous nous avez donné l'élan, vous avez chanté avec nous.
Et des raisons de se réjouir, il y en a aussi en Europe et en Espagne avec la reprise contrôlée de rassemblements publics et pourquoi pas des festivals. On se souvient qu'en mars dernier, Barcelone avait créé l'événement en organisant un concert avec test massif qui fut un succès sanitaire. C'est ce même protocole qui a permis d'organiser un festival réunissant 25 000 personnes pendant 3 jours. Événement maintenu malgré le rebond de l'épidémie dans la région et le fameux variant Delta. C'est le reportage à Barcelone d'Élise Gazangel.
Deux ans qu'ils attendaient ça, ce week-end à Barcelone, public et artistes ont pu se retrouver en festival face à la mer pour danser à l'air libre, sans distance de sécurité, et s'époumoner pendant 3 jours jusqu'au petit matin. Musique rock, rap, indie, espagnol ou international, le festival Cruïlla est l'un des incontournables de l'été à Barcelone. 25 000 personnes par jour pendant 3 jours d'affilée ont répondu présent à ce premier festival de cette envergure, même si pour Samuel, l'un des spectateurs, c'était peut-être trop vite.
Il y avait un désir de musique, de voir des gens, c'est ce qu'on ressent et c'est top. Mais moi je suis arrivé avec la flemme, j'avoue, après un an, sans voir autant de monde. Mais ensuite je suis rentré dans l'ambiance et tu te sens bien et tu te dis « allez
!» Après plus d'un an de négociations, le festival Cruïlla avait finalement obtenu l'autorisation des autorités sanitaires en mai dernier. Les deux concerts tests réalisés dans la capitale catalane en décembre et en mars, sans cluster, avaient ouvert la voie. Suivant le même protocole sanitaire, chacun des 25 000 participants au festival Cruïlla a réalisé un test tous les jours avant de rentrer dans l'enceinte du Forum de Barcelone. Un test payant, mais bien accepté. Laura est venue de Mallorca avec ses amis.
Je pense que c'est cohérent. Nous avons envie de venir à un festival, de pouvoir danser, socialiser. Et évidemment, on n'a pas envie d'un bâton dans le nez. Mais ensuite, on pense que c'est bien parce que ça nous permet d'y accéder, d'être dans un festival presque comme avant.
Mais quelques jours avant la tenue du festival, un rebond de l'épidémie et spécialement des contagions chez les jeunes catalans a eu raison de la motivation de certains amis de Laura. Quant aux 300 personnels sanitaires mobilisés pour l'occasion, certains ont eu un léger doute, à l'image de Paola Estadella, 18 ans.
J'ai eu un peu peur, mais bon, je suis vaccinée, donc je prends moins de risques. Réellement, je n'aurais jamais imaginé être ici, mais c'est pas si mal. J'aime bien et c'est une satisfaction parce qu'on aide à ce qu'il y ait moins de contagions.
Pour sa collègue infirmière Maria Ruiz Clemente, en revanche, aucune préoccupation.
Non, parce qu'en réalité, dans un hôpital, c'était pire pour nous sans être vaccinés. Alors que là, on est protégé par le vaccin, la combinaison, je ne suis pas inquiète. J'avais travaillé dans des festivals avant, mais en tant que serveuse. Alors, ce statut n'existait pas avant et la vérité, c'est que je suis heureuse d'être ici.
La procédure est au point. Après le test et 15 minutes d'attente, les résultats envoyés par mail, s'ils sont négatifs, permettent l'activation automatique des bracelets nominatifs munis d'une puce électronique et l'accès au festival. Même si le premier groupe qui devait jouer jeudi a finalement dû annuler et être remplacé car son chanteur a été détecté positif quelques heures plus tôt, le directeur du festival, Jordi Herreruela, s'estime plus que satisfait.
Je ressens du bonheur, bonheur du côté du public, bonheur du côté des artistes qui peuvent de nouveau jouer devant des milliers de personnes en sautant, en dansant, en se prenant dans leurs bras. Une sensation de bonheur des organisateurs parce que tout se passe bien.
Pour le professionnel, le dépistage massif et quotidien de tous les participants au festival est gage de sérieux.
Aujourd'hui, on teste 25 000 personnes en 6 heures. C'est un défi d'organisation. Et on le fera pendant 3 jours de suite. Ça veut dire que si on montait 25 espaces similaires, on pourrait tester l'ensemble de la population catalane en une semaine. Pour l'instant, 9 000 personnes sont entrées et on a détecté 90 cas. Selon les scientifiques, chaque cas asymptomatique peut contaminer 10 à 15 personnes. Donc ça veut dire qu'on a réduit de 900 contaminations la propagation du Covid. La musique peut donc aider à freiner le virus.
Au plus proche des scènes, dans la fosse, des dizaines d'employés du festival veillent à ce que tous portent un masque correctement. Plus loin, le public est autorisé à l'enlever pendant qu'il boit ou mange. Des mesures critiquées en dehors du festival, mais qui rassurent les participants à l'image de Jordi Barcelonnet.
Je me sens en sécurité. J'ai mon test négatif, le masque FFP2 distribué à tous. Si tu te rapproches de la fosse, tu dois obligatoirement mettre un masque. Et tu sais aussi que tous ont passé le test, donc tu te sens en sécurité. Que tous passent le test et qu'ils le fassent chaque jour, c'est important.
Les organisateurs reconnaissent que la pression est plus grande, mais font confiance aux équipes techniques et scientifiques. Il faudra tout de même attendre quelques semaines pour connaître les résultats définitifs de ce festival test de Barcelone.
Por hacernos creer que merece la pena vivir con la música y en la música. Muchas gracias.
Et c'est de nouveau le bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne à propos des réformes dans le monde de la justice. La Cour constitutionnelle polonaise doit décider en ce début de semaine si elle peut ignorer les décisions européennes. En cause, la fameuse chambre disciplinaire de la Cour suprême, un organe créé par le pouvoir pour sanctionner les juges qui seraient trop rebelles. L'Union européenne a fait savoir que cette instance n'était pas légitime. Et les juges polonais eux-mêmes bataillent contre cette chambre disciplinaire qui vient brider leur indépendance. À Varsovie, Sarah Bakaloglu a rencontré l'une d'elles.
Devant la Cour suprême à Varsovie, nous avons rendez-vous avec Marzana Piekarska-Drażek. La Polonaise est juge à la Cour d'appel de la capitale. Et il y a quelques semaines, elle a rendu un jugement très médiatisé. Alors que la Chambre disciplinaire polonaise avait levé l'immunité d'un juge très critique, bête noire du pouvoir, Marzana Piekarska-Drażek a décidé que cette décision n'était pas valide, la Chambre disciplinaire n'étant pas légale.
C'était une décision normale à prendre, conforme au droit européen et au jugement précédent de la Cour suprême qui ne reconnaît pas cette chambre. Mes croyances personnelles en tant que juge n'ont pas d'importance. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la question de l'indépendance de la justice.
Marzana Piekarska-Drażek a donc tranché. Le juge qui était menacé par la chambre disciplinaire peut continuer à travailler et à jouir de son immunité. Autant dire que la validité des sanctions d'une instance mise en place par le pouvoir et très critiquée par l'UE sont contestées. Dans ce contexte, ce jugement n'est pas passé inaperçu auprès du gouvernement polonais.
J'ai reçu un appel de la part du ministère de la Justice me demandant de soumettre une déclaration pour justifier la décision que j'avais prise. Mais c'est illégal de demander cela à un juge. On ne me l'a pas dit mot pour mot, mais le sens de cet appel est qu'on me reproche d'avoir rejeté la légalité de la nouvelle chambre disciplinaire.
La juge polonaise ne s'est pas laissée faire. Suite à cet appel, elle a publié une déclaration se terminant sur ces mots « Le service des juges, ce n'est pas la servitude ».
Je me suis dit que ces tentatives de pression, comme cet appel que j'ai reçu, peuvent être considérées comme de l'intimidation et peuvent avoir un impact, non pas sur moi, mais sur les juges qui seront alors peut-être plus craintifs. En tout cas, c'est un phénomène dangereux pour la justice. Et comme je l'ai souligné, le service judiciaire, ce n'est pas la servitude.
La juge a imprimé cette formule sur une pancarte qu'elle emmène désormais avec elle lors de rassemblements pour défendre l'état de droit en Pologne. Car le parti Droit et Justice au pouvoir a pris le contrôle du tribunal constitutionnel du pays, celui-là même qui doit désormais juger qui du droit polonais ou du droit européen doit s'appliquer. Aujourd'hui, Marzana Piekarska-Drażek risque des poursuites disciplinaires, mais pas question pour elle de se plier au pouvoir.
Ce qui m'arrive, cela ne m'accable pas. Je suis courageuse, je suis résistante. En fait, ce que je le fais pour les plus craintifs, pour qu'ils sachent que nous tenons le coup. Et c'est ce que j'ai répondu aux juges qui m'ont appelé après avoir vu ma prise de position. Je ne l'ai pas écrite pour répondre au ministère de la Justice, mais pour les juges polonais. Et je leur ai dit, un peu en rigolant, de déployer leurs ailes et de se redresser face au pouvoir.
Ces dernières semaines, suite au jugement de Marzana Piekarska-Drażek, d'autres cours polonaises ont émis des jugements similaires, réfutant ainsi la légalité de la chambre disciplinaire.
En Hongrie aussi, le gouvernement de Viktor Orban est une source inépuisable de critiques, de mises en demeure ou de jugements de la Cour de justice de l'Union européenne. Dernier épisode en date, une loi hongroise qui discrimine les LGBT qualifiées de honteuses par la présidente de la Commission. La Cour européenne pourrait s'en saisir. Ultime épisode d'une relation tendue, mais si Budapest fustige toujours cette instance supranationale, elle se plie aussi à ses arrêts. Les explications de notre correspondante Florence Labruyère.
Je t'aime, moi non plus. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la relation complexe du gouvernement hongrois avec la Cour de justice de l'Union européenne. L'année dernière, les juges ont condamné la Hongrie dans plusieurs affaires. D'abord, celle des camps de réfugiés au sud du pays. La Cour a estimé qu'ils ressemblaient à de vraies prisons à ciel ouvert. Le gouvernement hongrois a respecté la décision. Il a fermé les camps et transporté les réfugiés dans des centres ouverts, d'où ils étaient libres de sortir. Ensuite, la justice européenne a cassé la loi anti-ONG votée par le parti d'Orban. Ce texte obligeait les ONG hongroises à donner les noms de leurs donateurs étrangers. Et comme dans la Russie de Poutine, les associations qui recevaient des donations importantes devaient indiquer sur tous leurs supports de communication qu'elles étaient des agents de l'étranger. Après la décision de la Cour, Budapest a finalement abrogé la loi. Le gouvernement ne cesse de fustiger l'Europe, mais jusqu'ici, il se soumet aux injonctions des juges. Nous mettons toujours en œuvre les arrêts de la Cour européenne, que nous les considérions comme justes ou faux, intelligents ou peut-être absurdes, a déclaré le Premier ministre hongrois. Viktor Orban est juriste de formation, et s'il respecte la justice européenne, c'est aussi parce qu'il veut y avoir accès pour défendre ses intérêts. Ainsi, la Hongrie a demandé à la Cour du Luxembourg d'annuler la nouvelle règle européenne qui conditionne le versement des fonds au respect de l'état de droit. Une manière pour Orban de retarder l'application de cette règle, car la décision des juges n'interviendra pas avant fin 2022, soit après les élections législatives en Hongrie, que Viktor Orban espère bien remporter.
Voilà un essai qui ne devrait laisser personne indifférent. La grande migration, c'est le titre français d'un essai publié il y a quelques mois par le philosophe italien Raffaele Simone. Il s'interroge sur la vague migratoire commencée en 2015. Pour cet universitaire italien, l'Europe n'a pas compris ce qui était vraiment en train de se passer. Pire, les dirigeants européens refusent, selon lui, de voir ce qu'il appelle une catastrophe. Franceline Beretti, qu'entend-il par catastrophe ?
Par catastrophe, Raffaele Simone veut dire la fin du monde tel qu'on le connaît. Il n'y a pas de jugement moral derrière. Pour lui, l'afflux de migrants ces dernières années est de toute façon inéluctable. Il y a la pression démographique dans les pays de départ, la fragilité des droits individuels, les guerres, l'absence de perspectives économiques. Les gens vont continuer à quitter leur pays.
De quoi parle-t-il dans son livre alors ?
Il est très remonté contre les dirigeants européens, Raffaele Simone. Pour lui, ils n'ont aucune vision politique, c'est-à-dire de long terme, et explique seulement que tout va bien. C'est le fameux « Wir schaffen das », « on va réussir », de la chancelière Angela Merkel en 2015, quand plus d'un million d'étrangers débarquent en Allemagne. Il y a des questions fondamentales qui sont éludées, dit Simone. Que va-t-il se passer avec cet afflux de migrants qui ne partagent pas notre culture institutionnelle, nos pratiques juridiques, nos comportements sociaux ? Comment va-t-on vivre ensemble dans 10 ans, dans 30 ans, avec leurs enfants ? Que vont-ils faire comme métier ? Au lieu d'affronter ces difficultés, les Européens oscillent entre le laisser-faire et une politique de répression souvent trop tardive. Il donne l'exemple du squat de la Piazza Independenza à Rome. En 2017, ces 11 étages sont occupés depuis 4 ans par des centaines d'immigrés illégaux, érythréens, soudanais, éthiopiens. Aucun service social ou de sécurité n'a jamais pu mettre les pieds dans l'immeuble. La police applique finalement l'ordre d'expulsion, les affrontements sont violents, et on découvre que l'immeuble est géré par la mafia, qu'elle loue des fauteuils à l'heure, que les conduites de gaz menacent de faire tout exploser et qu'un étage abrite un bordel.
Et qu'est-ce qu'il conclut de cette histoire, Raffaele Simone ?
Pour lui, c'est le symbole du problème européen. L'État n'intervient pas, on laisse faire car ces gens sont des miséreux, c'est vrai, et indirectement à cause de nous, à cause de la colonisation et de l'exploitation de leur pays par l'Occident. Conséquence, il se crée des situations inacceptables en termes de droit, de sécurité et même de morale. Il insiste beaucoup sur ce sentiment de culpabilité avec lequel il faut en finir. Et c'est très intéressant parce que Raffaele Simone est un intellectuel classé à gauche, mais dans son essai, il est complètement politiquement incorrect.
Et peut-on dire, Franceline, qu'il va jusqu'à défendre les thèses de l'extrême droite ?
Non, il voit un danger dans l'essor de l'extrême droite. Mais pour lui, les responsables, ce sont les dirigeants actuels. À force de dire que les flux migratoires ne sont pas un problème, que ces millions de personnes vont s'intégrer toutes seules, à force de raconter un récit idyllique et naïf sur ce phénomène, les citoyens se tournent vers les politiciens plus critiques. Si l'extrême droite monte, selon Simone, c'est aussi comme réponse à la haine de soi qui se développe en Europe, le fait de renier ses propres valeurs pour s'adapter à celles de ceux qui arrivent. Ces exemples sont sidérants. Il y a cette piscine de Stockholm qui sépare désormais les hommes des femmes car les agressions ont augmenté. Il y a cette Allemande d'origine turque violée par 3 migrants. Elle leur a adressé une lettre d'excuse dans la presse. À cause de sa plainte, ils avaient été victimes de propos racistes. Ces cas représentent-ils une vraie tendance ou sont-ils marginaux ? Difficile à dire, mais Simone, lui, y voit un réel basculement.
Et que propose-t-il alors comme solution ?
Il insiste sur la nécessité de voir enfin les problèmes pour pouvoir y apporter une réponse. L'Europe doit d'abord comprendre qui elle est, quelles sont ses valeurs et en quoi elles sont menacées pour les poser comme indiscutables. Ensuite, on pourrait enseigner la langue locale dès l'arrivée des migrants, leur donner des rudiments d'instruction civique, éviter la création de ghettos, investir dans les écoles, les services publics. Bref, il faut des États interventionnistes et bien décidés à intégrer ces personnes. Des États qui dépensent pour cela de très grosses sommes. Mais pour Simone, la politique actuelle de laisser-faire répression est déjà très coûteuse et absolument inefficace.
La grande migration de Raffaele Simone. Merci Franceline Beretti. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et les plateformes d'écoute de podcasts. À demain.